Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20. Nous allons lire les versets 7 à 10. Apocalypse 20, les versets 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors les enfants, je vais avoir besoin de vous. Je vais vous donner une description de deux personnages. Et dès que j'ai suffisamment d'éléments, dès que vous pensez qu'on va avoir la réponse, Vous levez la main, vous me la donnez, ok, hein? Donc il s'agit de deux personnages, deux guerriers. L'un est petit, plutôt malin, plutôt intelligent, et l'autre est très, très, très fort et gros. Enfin, il n'aime pas le terme gros, lui, il préfère plutôt être décrit comme étant enveloppé.
Astérix et Obélix.
Hein, deux personnages de bande dessinée. J'aurais pu continuer, ils aimaient manger des sangliers, ils aimaient taper sur les Romains, etc. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Je vous ai donné des éléments, je vous ai donné une description, et dès que vous aviez eu suffisamment d'éléments, ça vous a dirigé vers quelque chose que vous connaissez. Hein, et vous saviez de quoi qui est-ce que j'étais en train de décrire. L'Apocalypse fait la même chose. Nous l'avons déjà dit. L'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, ne cesse de renvoyer les lecteurs vers des choses qu'ils connaissent. Ne cesse de renvoyer vers des passages de l'Ancien Testament. Mais pas seulement. Nous renvoyer aussi vers les évangiles et même vers des lettres qui commençaient à circuler. Et les choses que les croyants du premier siècle connaissaient. Mais l'histoire nous montre que quand les croyants arrivent ou vivent dans une situation de stress, pensent que la fin du monde est sur le point d'arriver, au lieu de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire regarder vers ce que la parole de Dieu dit et vers ce qu'ils connaissent, ils cherchent dans l'actualité des indices, des signes qui indiqueraient que la fin du monde est arrivée. Et donc, la première chose que nous voulons souligner ce matin, c'est, concernant ce passage, une mauvaise interprétation. Et le passage vers lequel l'Église se tourne, ou s'est tournée tout au long de l'histoire, quand elle était face à un moment de stress, un moment où on pensait que la fin du monde était là. C'est ce passage qui parle de Gog et Magog en Ézéchiel 38 et 39, et ce passage que nous venons de lire en Apocalypse chapitre 20. Et on a toute une liste d'interprétations. Je vais vous en donner quelques-unes. Au 4e siècle. Au 4e siècle, c'est le déclin de l'Empire romain. C'est en quelque sorte la fin du monde civilisé. Et Ambroise, décrit comme un père de l'Église, a affirmé que Gog décrivait les Goths. Des Goths qui attaquaient l'Empire romain et qui finalement allaient renverser l'Empire romain. Ça, c'est au 4e siècle. Au 7e siècle, on a affirmé que Gog et Magog décrivaient les armées arabo-musulmanes qui menaçaient Jérusalem. Au XIIIe siècle, on a affirmé que Gog et Magog décrivaient Alors, le prénom c'est Mangu Khan ou Mangé Khan, petit-fils de Genghis Khan, avec ses armées mongoles qui s'approchaient de Vienne en Autriche et qui menaçaient. Et plus tard, on a associé Gog avec le pape ou l'Empire ottoman ou le tsar russe. On va s'attarder un tout petit peu sur cette dernière association. Pendant la guerre de Crimée, en 1853-1856, guerre de Crimée qui opposait l'Empire russe et une coalition franco-britannique qui défendait l'Empire ottoman, des commentateurs, en particulier britanniques de cette époque-là, ont dit que l'ennemi que l'on combattait, c'était Gog, et que son peuple était Magog. Et c'est cette interprétation que l'on va retrouver dans la Bible avec les notes de Scofield. J'aime pas parler de Bible Scofield, parce qu'il y a le texte biblique et il y a les notes de Scofield. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes donnent beaucoup plus de poids aux notes de Scofield qu'au texte biblique. Mais voilà, et l'enseignement dispensationaliste, aujourd'hui, défend cette position, dit que Gog et Magog décrivent la Russie. Premier mot sur la feuille. Et un exemple, au début des années 90, certains ont souligné que le président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, qui, rappelez-vous, avait une tache sur son front, sur sa tête, allait conduire la nation russe, Magog, dans une conspiration mondiale qui va impliquer des nations arabes et qu'ils allaient ensemble attaquer Israël. Cette guerre allait déclencher l'enlèvement de l'Église, la découverte de l'Arche de l'Alliance, la reconstruction du Temple à Jérusalem. Et tout cela devait arriver avant l'an 2000. Alors aujourd'hui, ça nous fait sourire, on est à la fin de l'an 2016, et ça ne s'est pas arrivé, ça ne s'est pas passé comme cela. Mais les dispensationalistes ne perdent pas courage. Ils sont encore une fois excités. Pourquoi ? Parce que la Russie, maintenant, elle est en Syrie. Elle s'approche, elle est au nord d'Israël. Mais tout cela donc représente une tendance que l'on trouve tout au long de l'histoire. Les lecteurs vont chercher à interpréter l'Apocalypse d'après les informations qu'ils ont entendues à la radio, lues dans le journal, vues à la télé, plutôt que de revenir à ce qu'ils connaissent, à ce que l'Écriture dit. Et ils deviennent hystériques. Alors que le but de la parole de Dieu, le but de l'apôtre Jean, le but du Seigneur Jésus-Christ qui parle au travers de l'apôtre Jean, ce n'est pas de produire une hystérie, mais c'est bien le contraire. C'est d'apporter du réconfort, d'apporter du courage, d'apporter la paix, deuxième mot sur la feuille, d'apporter la paix aux croyants, parce qu'ils connaissent la fin de l'histoire. Et voilà le but de l'Apocalypse. De cela nous amène donc au deuxième point, une dernière rébellion. Cette vision, donc, dans les versets 7 à 10, résume l'enseignement du Nouveau Testament qui affirme qu'il y aura effectivement bel et bien une dernière rébellion qui va marquer cette ère de l'Église. L'apôtre Paul, par exemple, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, s'adresse à des croyants qui avaient entendu dire qu'ils étaient passés à côté du retour du Seigneur Jésus-Christ et qu'ils l'avaient manqué. Et Paul leur dit aux 2 Thessaloniciens 2, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, troisième mot sur la feuille, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de perdition. Il faut et qu'il y ait cette apostasie avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y a cette apostasie, il y a cette rébellion qui sera menée par cet homme impie. On a déjà vu cela aussi dans ce livre de l'Apocalypse, chapitre 11. L'Église était représentée par les deux témoins, l'un comme Moïse, l'autre comme Élie. Et ils allaient témoigner pendant toute l'ère de l'Église, Et là, l'image, c'était les 1260 jours. Et à la fin, quand ils ont fini de témoigner, on lit en Apocalypse 11, verset 7, « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. » Et le passage continue en nous décrivant le retour du Seigneur Jésus-Christ qui va redonner la vie au corps de ces deux témoins. C'est une façon de l'Apocalypse de nous montrer l'histoire de la période dans laquelle nous vivons. L'Évangile est annoncé, l'Église elle témoigne jusqu'à ce que ce message parvienne aux extrémités de la terre, que tous les élus soient sauvés, soient rassemblés. Puis arrive la fin, et avant la fin, il y a cette dernière bataille. On l'a déjà vu au début de ce chapitre 20, verset 3. Satan est lié pour 1000 ans. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et Jean donc reprend cette image, reprend cette idée dans les versets 7 et 8. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Notez ici que Satan est relâché, Satan est délié. Satan n'est pas un Houdini capable de s'évader des restrictions que Dieu lui a imposées par des trucs ou par sa force ou par des méthodes d'illusionnistes. Non, il est vrai que Satan est fort et bien plus fort que nous. N'oublions pas que c'est un archange qui est déchu. Il est fort, mais il est incapable, quatrième mot sur la feuille, il est incapable de vaincre la volonté et la puissance de Dieu. Satan n'est pas un être infini. Il ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. Alors bien entendu, il a des démons qui œuvrent pour lui. Mais Jean nous rappelle, en 1 Jean 4, verset 4, que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le langage d'Apocalypse donc souligne que Satan est relâché. Le langage, c'est passif. Ce n'est pas Satan qui se libère lui-même. Satan est sous le contrôle souverain de Dieu. Il est relâché. Il est relâché. Et c'est seulement au moment où Dieu, dans sa souveraineté, a décidé, seulement à ce moment-là, que Satan est délié de sa chaîne pour un peu de temps. On a vu dans notre étude des versets 1 à 3 que l'enchaînement de Satan a pour but qu'il ne séduise plus les nations pendant 1000 ans. Et ce passage ne nous dit pas que Satan est enfermé dans un cachot, qu'il ne peut rien faire. Non, la parole de Dieu est claire. Satan peut faire beaucoup de choses, il peut accomplir beaucoup de mal dans ce monde. Pierre nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais ce qu'il ne peut pas faire, et pour la raison pour laquelle il a été lié, nous l'avons souligné, c'est qu'il ne peut pas empêcher la progression de l'Évangile. Il ne peut pas arrêter l'annonce du salut. Avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, Satan avait pu séduire le monde entier, cinquième mot sur la feuille. Il n'y avait qu'une petite lueur et elle était en Israël. Ce n'était que là qu'il y avait des croyants qui attendaient la venue du Messie. Le reste du monde était dans les ténèbres. Mais depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ la propagation de l'Évangile, Satan n'a plus d'emprise sur ce monde. Nation après nation, pays après pays, l'Évangile est arrivé avec force, avec puissance, pour le salut des élus. Et Satan ne peut pas empêcher cette réalité. Il ne peut pas empêcher cela. Même au XXe siècle, quand il y a eu des emprisonnements, quand les politiques ont voulu, dans certains pays, je pense justement à l'URSS ou la Chine, quand ils ont voulu supprimer l'Église, ils n'ont rien pu faire. Les croyants se réunissaient en cachette. L'évangile a continué à progresser. Il y a eu des camps, il y a eu des prisons, mais les chrétiens dans ces camps ont témoigné. Et ils ont continué à répandre la parole de Dieu. Satan ne peut pas empêcher la progression de l'évangile. Ce serait intéressant de voir ce qui se passe aujourd'hui dans les pays musulmans et que l'on ne sait pas. Ce serait intéressant de le découvrir un jour. Là où Dieu a décidé que l'évangile progresserait, Satan n'est pas capable d'arrêter cette progression. Il n'est pas capable d'arrêter cette progression. Mais le texte nous dit que cet enchaînement de Satan va prendre fin. Un jour, Satan sera relâché. Quand il sera relâché, Satan va faire ce qu'il a fait avant la venue de Christ. Il va séduire les nations. Il va encore une fois séduire les nations. Et cela nous montre que l'arme principale de l'adversaire n'est pas la persécution. Ce que nous devons craindre le plus venant de la part de Satan, ce n'est pas qu'il frappe nos corps, mais c'est son utilisation du mensonge, de la tromperie, des demi-vérités pour séduire les hommes afin qu'ils ne croient pas dans l'évangile. La persécution physique n'est qu'un moyen pour atteindre ce but. Satan veut intimider les hommes, mais son but principal, c'est de séduire les nations, de les garder dans l'incrédulité. Et cela met en avant toute l'importance de l'œuvre de l'Église. On pourrait dire que l'institution la plus importante dans n'importe quel pays, sur n'importe quel continent et à n'importe quelle époque de notre histoire, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. La chose la plus importante que l'Église doit faire, avec courage, avec fidélité, sans compromis, c'est de proclamer, sixième mot sur la feuille, de proclamer la vérité de Dieu, la vérité du Seigneur Jésus-Christ au milieu des ténèbres. Et c'est une tragédie quand l'Église met cela au deuxième plan. Aujourd'hui, l'Église, au sens général, au sens large, n'a pas mis la proclamation de la vérité au premier plan. Au premier plan, on retrouve la croissance de l'Église. Et on veut la croissance, donc on va s'adapter au monde. On va divertir le monde, on va avoir de l'influence, donc on va écarter la parole de Dieu. On va être un peu moins sacré pour un peu ressembler un peu plus au monde, pour l'attirer. On va donner un enseignement léger qui est divertissant, mais surtout pas de doctrine, surtout pas. Mais c'est une tragédie. C'est une tragédie, c'est, pour ainsi dire, jouer le jeu de Satan. L'Église, en agissant ainsi, ne joue pas son rôle dans le monde. Elle n'est pas cette lumière, elle ne proclame pas la parole de Dieu. Elle ne brille pas au milieu des ténèbres. Et quand une assemblée veut être fidèle, on nous dit que c'est une erreur de prêcher la parole de Dieu sans la diluer. Bien sûr, nous aussi, ici, nous voulons la croissance de l'Église. Mais nous voulons une croissance qui soit véritable. Nous croyons que l'Évangile fonctionne réellement. C'est véritablement la puissance du salut, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dieu sauve réellement. Satan est lié et il ne peut pas empêcher l'œuvre du salut d'avancer. Dieu sauve réellement en son temps. Et c'est lui qui fait son œuvre. Les autres croissances que l'on peut voir autour de nous n'ont peut-être rien à voir avec le salut. L'Église doit se tenir à la parole de Dieu et la proclamer fidèlement à ce monde. Mais revenons, donc, dès que Satan est délié, il connaît le succès. Il séduit les nations. Et c'est une vérité plutôt décourageante au sujet du cœur humain. Dès que Dieu relâche Satan, les nations sont à nouveau séduites. Cela ne veut pas dire que ces nations sont inexcusables. Non, elles sont séduites, elles sont sujettes à la séduction. Et on le remarque déjà aujourd'hui, chez les non-chrétiens. Il y a une volonté de croire même les choses les plus insensées, les choses qui sont enseignées à l'école ou dans les médias, des choses qui, avec du recul, on réalise que ça ne tient pas, c'est ridicule. On parle de la théorie de l'évolution, par exemple, ou de choses comme ça. L'insensé croit ces choses. Pourquoi ? À cause de l'incrédulité de son cœur, à cause de la dépravation de son cœur. Le cœur de l'homme, septième mot sur la feuille, n'a pas changé. Satan a séduit les nations avant la venue du Christ. Dès qu'il sera libéré, il séduira les nations à nouveau. Et on verra dans le passage suivant qu'après cette dernière rébellion, quand le Seigneur Jésus-Christ revient, les nations, les hommes seront au pied de son trône et seront inexcusables. Ils apparaîtront comme étant rebelles devant Dieu. Comme étant rebelles. Leur péché n'a pas été causé par les circonstances, mais par leur rébellion. Ce n'est pas qu'ils aient fait de leur mieux, ou que personne ne les a aidés. Non, ils ont été rebelles. Rebelles contre Dieu. Et Dieu sera vu comme parfaitement juste dans sa condamnation. Mais du point de vue de Satan, cette séduction a un autre but. C'est de conduire l'humanité qui est dans les ténèbres dans une dernière bataille contre Dieu. Huitième mot sur la feuille. Et c'est cette bataille qui va mettre fin à l'ère de l'Église. Verset 8, « Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. » Voilà le but de sa séduction. Cette bataille à la fin de l'histoire est la même que nous l'avons déjà vue. Nous l'avons vue au chapitre 16. Elle est décrite comme étant la bataille d'Armageddon. Au chapitre 19, on a vu le Seigneur Jésus assis sur un cheval blanc, et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Ici, nous avons Gog et Magog, mais il s'agit du même événement. Alors, bien entendu, les prémillénaristes ne sont pas de cet avis. Ils vont dire qu'il s'agit de différentes batailles qui se ressemblent. Mais quand on regarde sérieusement le livre de l'Apocalypse, on doit venir à la conclusion qu'il s'agit du même événement, avec différentes perspectives. Au chapitre 16, on nous a présenté cela comme étant l'humanité qui se rebelle contre Dieu, avec le langage du champ de bataille dans la vallée de Megiddo, où les nations seront rassemblées, verset 14, pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Quel est ce grand jour ? Ce grand jour, c'est le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre 19 et au chapitre 20, j'ai vu déjà que ces deux passages se réfèrent au même passage de l'Ancien Testament, Ézéchiel 39. Au chapitre 19, on a une référence aux oiseaux de proie. Au chapitre 20, on a ici donc les noms de Gog et Magog. Et ces deux passages se réfèrent à la même prophétie d'Ézéchiel. Ils décrivent donc le même événement, mais d'un point de vue différent. Et de plus, le langage dans les chapitres 16, 19 et 20 est quasiment identique. Chapitre 16, verset 14, « Les rois de toute la terre rassemblés pour le combat. » Chapitre 19, verset 19, « Les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre. » Chapitre 20, verset 8, « Les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, rassemblés pour la guerre. » Et en plus, dans le grec, il y a l'article défini, c'est la guerre. Ce n'est pas une guerre parmi d'autres. Non, c'est la bataille qui va mettre fin à l'histoire. En d'autres termes, le dit un commentateur, il s'agit dans les trois cas d'un seul et même combat, celui d'Armageddon, le combat ultime livré à l'Église par les forces de l'Antichrist. Et donc, par la plume de l'apôtre Jean, le Seigneur Jésus veut que son Église sache qu'il y aura d'une part la persécution durant toute l'ère de l'Église, mais aussi que quand l'œuvre de l'Évangile sera terminée, Satan sera autorisé à mener une bataille mondiale contre l'Église et contre l'Évangile. Et à ce moment-là, il n'y aura plus d'opportunité pour la repentance. Ce qui nous amène au troisième point, une urgence. Et la conséquence de cette nouvelle pour l'Église, c'est de nous rappeler l'urgence de proclamer l'Évangile, deuxième mot sur la feuille. L'urgence de proclamer, d'utiliser tous les moyens que nous avons aujourd'hui pour proclamer cette bonne nouvelle du salut, pour faire connaître ce merveilleux message. Il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu, accompagnée de la puissance de l'Esprit de Dieu, qui peut sauver, qui peut transformer le cœur de l'homme. Dans Ézéchiel, dans ce même passage, Dieu dit qu'il va enlever le cœur de pierre pour donner un cœur de chair. Ézéchiel 36, verset 26. Dieu envoie Ézéchiel prêcher dans une vallée remplie d'ossements. Chapitre 37, verset 4 et suivant. Et la parole de Dieu a pour effet que ces ossements vont reprendre vie et devenir une armée très nombreuse. C'est la parole de Dieu qui donne vie, dixième mot sur la feuille. L'apôtre Pierre nous le rappelle, 1 Pierre 1, verset 23, que vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et donc, personnellement et en tant qu'Église, nous devons proclamer, déclarer ce message de la parole de Dieu, du salut en Jésus-Christ et en lui seul. Et tant que Satan est lié, Satan ne pourra pas nous empêcher, ne pourra pas empêcher cette parole d'avancer, de faire son effet et de toucher le cœur de ceux que Dieu a choisis. Nous vivons dans une période qui est extraordinaire. Alors certains, sur le plan émotionnel, auraient dit qu'ils auraient aimé vivre du temps de Moïse ou de Josué quand ils entrent dans la terre promise. Mais ces temps-là n'étaient pas aussi extraordinaires, puisque le monde entier était dans les ténèbres. Aujourd'hui, l'Évangile se répand partout le monde. Et nous avons nous-mêmes des échos, en particulier des pays en Afrique ou Haïti, mais nous pouvons penser en Australie, en Sibérie, aux États-Unis, dans des pays en Europe, partout ailleurs, l'Évangile est annoncé, l'Évangile avance, la parole de Dieu avance, parce que Satan est lié, et il ne peut pas empêcher la progression de l'Évangile. Là où Dieu a décidé que l'Évangile avancera, onzième mot sur la feuille, Satan ne pourra jamais l'en empêcher. Nous avons tout à l'heure dit que les trois récits de la bataille ont chacune leur perspective. Chapitre 16, la bataille apparaît juste avant la septième coupe. Et cela souligne le jugement de l'humanité rebelle. Chapitre 19, ce sont le faux prophète et la bête qui sont capturés, qui sont jetés dans le feu. Chapitre 20, il s'agit du jugement de Satan lui-même. Mais on a aussi ici donc une description de la grande armée que Satan va réunir pour la bataille contre Dieu, verset 8. Et Satan sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ces nations rassemblées des quatre coins de la terre sont donc identifiées par ces noms, Gog et Magog. Et cette référence vient du livre d'Ézéchiel. Nous avons cité, je l'ai dit tout à l'heure, Ézéchiel 38 et 39, où le prophète a prédit un assaut sur le peuple de Dieu. Donc, quatrième point, Gog et Magog. Et donc, pour avoir une bonne interprétation de ce passage, nous allons d'abord résumer brièvement le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel vient quand Jérusalem est en train de tomber. Et c'est l'un des premiers exilés à Babylone. Et de Babylone, il va d'abord écrire 33 chapitres au sujet du jugement de Dieu sur Jérusalem, ce jugement qui doit arriver, ce jugement qui est terrible. Au chapitre 33, on voit la chute de Jérusalem devant l'armée de Nebuchadnezzar. Dans les chapitres 34 à 37, on a certaines des plus merveilleuses déclarations de l'Évangile dans l'Ancien Testament. Ézéchiel annonce un temps où la grâce de Dieu va venir. Et en fait, on voit la puissance de l'œuvre de l'Esprit, la puissance régénératrice de l'Esprit Saint qui est décrite ici. Je citerai le verset cité tout à l'heure, Ézéchiel 36, 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Des promesses de ce genre. Dans les chapitres 40 à 48, on a un aperçu de l'éternité, comme dans les chapitres 21 et 22 d'Apocalypse. On voit le temple, symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais avant cette vision de la gloire éternelle, dans les chapitres 38 et 39, après la période de bénédiction, et avant la gloire, nous avons donc ces deux chapitres qui nous disent qu'un ennemi va se lever du monde entier pour attaquer, 12e mot sur la feuille, pour attaquer le peuple de Dieu. Et voici comment c'est annoncé en Ézéchiel 38, verset 2. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roch, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. » Ézéchiel va poursuivre donc en décrivant comment cela va arriver, jusqu'à l'invasion de la terre promise, mais aussi de la victoire, de la délivrance que Dieu va accorder en intervenant de manière majestueuse. Et Jean, quand il reprend ces paroles, quand il reprend ces termes de Gog et Magog, il nous dit en fait que cette dernière bataille, cette bataille finale dont il est question ici en Apocalypse 20, est la bataille qui est décrite en Ézéchiel 38 et 39. Après le temps de bénédiction où l'Évangile est annoncé et jusqu'aux extrémités de la terre, et avant l'éternité où Dieu demeurera au milieu de son peuple dans la gloire symboliquement représentée par le temple en Ézéchiel. Avant cela, il y a le chapitre 38 et 39, il y a cette dernière bataille, Gog et Magog. Magog apparaît une première fois dans la Bible comme un des fils de Japhet. Japhet est l'un des fils de Noé. Genèse 10, verset 2. Méchec et Tubal, la plupart des experts les associent avec l'empire des Scythes. Rappelez-vous, on a vu cela au début de notre étude de l'Apocalypse. Les Scythes sont au nord de la Syrie, la partie orientale de la Turquie actuelle, jusqu'à la mer Noire. Alors dans certains milieux, vous allez entendre dire que Méchec, c'est Moscou, que Tubal, c'est Tobolsk. Mais à part une vague ressemblance phonétique, il n'y a aucun lien, comme vient de le dire, c'est plutôt associé avec l'Empire des Scythes, et l'Empire des Scythes est bien plus au sud de Moscou et de Tobolsk qui est en Sibérie. Ézéchiel 38, verset 2, parle aussi de Roche. Et bien sûr, encore une fois, phonétiquement parlant, certains vont dire « Ah ben, c'est Russie ». Mais le terme « Roche » en hébreu veut dire « chef ». Tête, premier. Par exemple, on a le sacrificateur, Cohen, et on a celui qui est à la tête des sacrificateurs, Cohen Harosh. On a aussi le premier jour de la semaine, qui est aussi défini comme étant avec le terme de roche, etc. Donc, il ne faut pas sauter sur une interprétation simplement parce que phonétiquement, les mots se ressemblent. Le point qu'Ézéchiel veut souligner, en utilisant les termes de Gog et Magog, c'est que cela parle d'une terre lointaine, des personnes qui sont au bout du monde, du point de vue d'Israël. Et ce sont eux qui vont venir et batailler contre l'Église. Ézéchiel 39, verset 2, « Je te ferai monter des extrémités du septentrion, du nord, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. » Encore une fois, à cause de cette référence au nord, certains vont dire, ah, « Mais forcément, par rapport à Israël, c'est la Russie. » Encore plus aujourd'hui, avec la Russie qui est en Syrie. Mais, du point de vue d'Israël, les régions les plus éloignées étaient de l'autre côté de la Syrie. Et ce n'est pas la géographie d'aujourd'hui qui doit déterminer notre interprétation. C'est ce que les gens connaissaient à l'époque. Tout ce qui était au-delà de la Syrie, pour Israël, c'était les extrémités de la terre. Jean fait ce que nous avons fait au début de ce message. Il renvoie ses lecteurs à ce qu'ils connaissaient. Et au premier siècle, dans la littérature rabbinique, l'expression « Gog et Magog » était utilisée comme une formule pour décrire les puissances qui allaient amener le chaos, 13e mot sur les feuilles. Les puissances dans les écrits eschatologiques des rabbins. On parlait de Gog et Magog, comme aujourd'hui on parlerait par exemple d'une invasion d'extraterrestres, d'une puissance sans visage qui allait amener la guerre, le chaos, etc. Et Jean utilise le terme donc de Gog et Magog dans ce sens-là. Alors certains vont dire, oui, mais il faut interpréter de manière littérale. Mais Jean n'interprète pas de manière littérale. Parce qu'en Ézéchiel, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en Ézéchiel 38, Gog est une personne qui vient de Magog. Et Magog est un lieu. Alors que dans notre passage d'Apocalypse, Gog et Magog sont des symboles des nations qui viennent des quatre coins du monde. Donc Jean lui-même interprète de manière symbolique. Et donc en reprenant ce langage qui pour les lecteurs du premier siècle symbolise le chaos et la guerre venant des régions éloignées, Jean veut souligner simplement que le mal vient sur l'Église de toute direction, de toute part. C'est ce que symbolise ce langage que Jean utilise quand il parle de Gog et Magog. Et ce langage de Jean résume ou reprend, confirme plutôt, tout l'enseignement du Nouveau Testament au sujet de la persécution mondiale de l'Église. Le verset 8 dit que les nations sont rassemblées des quatre coins de la terre pour la guerre. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'une seule nation de l'Est, comme la Russie, qui va se lever contre une autre nation, comme les États-Unis, et se faire la guerre entre eux. Non, les nations viennent des quatre coins de la terre. C'est le monde entier, 14e mot sur la feuille. Ce n'est pas une nation contre une nation, c'est le monde entier qui se rassemble dans sa rébellion contre Dieu et contre son Église. Parce qu'ils ne peuvent pas toucher Dieu, ils vont toucher son Église. Et le verset 8 continue en disant que leur nombre est comme le sable de la mer, un nombre vaste, énorme, qui ne laisse aucune chance au camp adverse. Pour prendre une image sportive, on va prendre une image du basket. C'est comme l'équipe professionnelle de l'Élan Chalon qui vient jouer contre l'équipe minime de Saint-Rémy. L'équipe minime de Saint-Rémy n'a aucune chance devant les professionnels, devant la force des professionnels. Et la parole de Dieu décrit l'Église de cette manière-là. En elle-même, l'Église n'a aucune force. Elle n'a aucune force devant cette armée. Elle est complètement à la merci de cette armée, aussi innombrable. Juste une parenthèse au sujet de cette armée innombrable. Cette description pose problème pour les prémillénaristes. Rappelez-vous, les prémillénaristes disent que Jésus revient, ensuite nous avons les 1000 ans, un âge d'or dans lequel le Seigneur Jésus-Christ règne sans retenue et où Satan est complètement lié, totalement lié. Mais si ça c'était vrai, d'où vient cette armée? D'où vient cette armée dont le nombre est comme le sable de la mer? Et si Jésus règne complètement, parfaitement, sans opposition, Pourquoi est-il incapable d'empêcher cette armée de se lever soudainement? Dans l'interprétation prémillénariste, encore une fois, il y a un problème. Cette description, au contraire, donc, correspond davantage à notre génération. Cette dernière bataille va se dérouler à la fin de l'ère de l'Évangile. Oui, Satan a été lié, nous l'avons dit. Satan a été lié, il ne peut pas empêcher la progression de l'Évangile. Mais il œuvre encore aujourd'hui. Il œuvre dans les cœurs. Il œuvre dans les nations. Et un jour, il sera délié pour conduire les méchants à se rebeller contre Dieu une dernière fois. Et l'Église dans tout cela, cinquième point. Le verset 9 dépeint une image, on pourrait dire, qui vient des studios de cinéma. On voit les armées qui avancent, qui viennent des quatre coins de la terre et qui s'avancent vers un seul objectif, l'Église. Ils viennent vers l'Église. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. On a quelque chose ici que l'on retrouve dans toute la parole de Dieu, dans chaque génération. Par exemple, le peuple de Dieu qui se retrouve devant la mer Rouge. Derrière eux, il y a l'armée de Pharaon, l'armée innombrable. Le peuple de Dieu n'avait aucune formation pour combattre une telle armée. Qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait? Le peuple de Dieu a crié à l'Éternel, 15e mot sur la feuille. Il a crié à l'Éternel et Dieu est intervenu. Dieu a séparé les eaux de la mer, il a sauvé son peuple par cette intervention. Et on retrouve cela tout au long de la parole de Dieu. En l'an 701 avant Jésus-Christ, par exemple, Sanchérib, le roi d'Assyrie, vient avec ses soldats pour siéger, faire le siège de Jérusalem. Ézéchias, le roi, a finalement suivi le conseil du prophète Ésaïe. Il s'est humilié devant Dieu. Et il a prié, Seigneur, c'est une paraphrase, mais il dit, Seigneur, tu es impliqué dans cette affaire. Si nous sommes vaincus, ton plan de salut va échouer. Et dans la nuit, l'ange de l'Éternel a frappé les 185 000 soldats. Cette ville qui était assiégée, qui n'avait aucun espoir, dont, aux yeux du monde, ces gens, ils étaient perdus. Les voilà entourés par cette armée puissante des Assyriens. Ils n'avaient aucune aide. Finalement, cette ville a été délivrée par un Dieu qui est souverain. 16e mot sur la feuille. Ils ont été délivrés par un Dieu qui garde son alliance et qui est souverain sur toute chose. Et à la fin de l'histoire, ce sera la même chose. Dieu va sauver son Église. Le langage utilisé ici pour décrire l'Église est remarquable. Verset 9, le camp des saints et la ville bien-aimée. La première description nous renvoie bien sûr au camp d'Israël pendant son voyage après l'Exode. C'est pour ça qu'il est intéressant, qu'il est important pour nous de lire l'Ancien Testament. Et par exemple ici, le livre des Nombres qui nous donne un arrière-plan de l'enseignement du Nouveau Testament. Nous sommes ce qu'ils étaient. Nous sommes dans ce monde des pèlerins, des étrangers. Pour reprendre un terme à la mode, nous sommes des migrants, voilà. Nous sommes des migrants. Nous n'appartenons pas à ce monde. Notre salut n'est pas ici. On pense au roi David qui ne cesse de crier à l'Éternel pour qu'il soit délivré. Il se cache même dans les grottes. Aujourd'hui, on peut penser à, dans certains coins du monde, des croyants qui doivent se cacher, qui demandent, qui prient, qui crient à Dieu de les garder. Le croyant n'appartient pas à ce monde. Il traverse ce monde, 17e mot sur la feuille. Il traverse ce monde comme le peuple d'Israël a traversé le désert. Notre demeure n'est pas ici-bas. Nous sommes en route vers la gloire. Et le Nouveau Testament veut que nous réalisions cela. Il veut que nous réalisions que c'est la réalité, que nous n'avons pas de part avec ce qui se passe autour de nous. L'apôtre Pierre écrit en 1 Pierre 2, verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Le camp de... Le camp des saints. Nous sommes en route, nous sommes en pèlerinage vers notre demeure. Et la deuxième description, la ville bien-aimée, elle est bien différente de la ville du monde. Il faut vous rappeler qu'en Apocalypse, il n'y a que deux villes. Il n'y a que deux femmes et que deux royaumes. Il y a le royaume, la ville de ce monde, décrite comme la grande prostituée qui a enivré les habitants de la terre, mais qui va tomber sous le jugement de Dieu. Et puis il y a le royaume, l'Église, l'épouse de Christ, bien-aimée et sauvée par lui. C'est elle, le véritable Israël, au milieu duquel Dieu habite. Et on peut dire que le peuple de Dieu est cette ville bien-aimée parce que Dieu la défend avec force, 18e mot sur la feuille. Dieu la défend contre les attaques de Satan. Verset 9, « Un feu descendit du ciel ». Et les dévora. Et dans l'Ancien Testament, le feu avait deux buts, celui de détruire les ennemis de Dieu, on pense en particulier par exemple à Sodome et Gomorre, mais aussi de protéger le peuple de Dieu. On peut penser à Deux Rois, chapitre 1, Élie, le roi Azakia, un roi mauvais qui a envoyé à plusieurs reprises des soldats pour chercher le prophète, mais l'Éternel a fait tomber le feu sur ses troupes pour les détruire. Et il sera ainsi de la même. Le feu descendra, consumera les ennemis qui attaquent l'Église. Et le Nouveau Testament utilise ce langage en parlant du retour du Seigneur Jésus-Christ. En 2 Thessaloniciens 1, versets 6 à 8, Jésus revient au milieu d'une flamme de feu pour juger. Il revient au milieu d'une flamme de feu pour juger. Et le passage en Ézéchiel précise que le feu tombera sur Magog pour les deux mêmes raisons, détruire ses ennemis, protéger et sauver son peuple. Et c'est intéressant de souligner ici que l'Église ne se sauve pas elle-même. L'Église ne se sauve pas elle-même. Israël, face à Pharaon, n'a pas abattu les chariots de son armée. Et nous ne pouvons pas nous sauver de ce monde. Nous ne combattons pas comme le monde combat. Nous combattons par la parole, par la prière. Et Dieu sauve son peuple. 19e mot sur la feuille. Nous avons déjà cité ce verset d'Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est de cette façon que l'Église... Au temps de Jean, a vaincu l'Empire romain. Quand l'Église, quand l'Évangile s'est propagé dans tout l'Empire, que l'Église a vaincu Rome, ce n'est pas que les croyants formaient une armée qui était meilleure que l'armée romaine, mais c'était par la proclamation de la parole de Dieu, par la prière et par la puissance de l'Esprit dans des vies rempli d'humilité. Sixième point. Le texte nous souligne que maintenant, Satan lui-même est jugé. Satan lui-même. Cela vient compléter cette section du jugement donc, qui a commencé au chapitre 17 et qui va nous emmener jusqu'à la fin de ce chapitre 20. Nous avons vu le jugement de Babylone, ensuite la bête, et maintenant, verset 10, « Satan lui-même est jeté dans l'étang de feu. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Ce n'est pas quelque chose de chronologique quand on lit que « Où sont la bête et le faux prophète ?» C'est simplement que la bête et le faux prophète ont déjà été jugés au chapitre 19. Et là, maintenant, nous avons l'accent qui est mis sur le jugement de Satan lui-même. L'accusation principale portée contre Satan, c'est qu'il séduisait les nations. Et cela donc souligne encore une fois l'importance, le rôle de l'Église de rendre un témoignage à la vérité. Mais quelle merveilleuse nouvelle cela est pour les croyants. Le jour vient où Satan ne sera plus. Satan ne sera plus. Tout ce qui ruine le monde aujourd'hui, le péché, la maladie, la mort, les tentations, etc., tout cela aura disparu. Et le point donc que cela met en avant, c'est que le croyant peut faire face à l'avenir avec une grande espérance. 20e mot sur la feuille. Avec une grande espérance, parce que même son pire ennemi va disparaître. Et c'est une certitude. Alors certains vont nous dire, oui, mais Satan est un être spirituel, donc il ne peut pas, il ne possède pas de corps, donc il ne peut pas être jeté dans l'étang de feu. Mais c'est un symbole. Encore une fois, c'est un symbole de tourment éternel, un symbole de la punition contre le péché. Et cela souligne que c'est avant tout un tourment spirituel, même si nous verrons plus tard que c'est aussi un tourment physique, puisqu'au verset 15 de ce même chapitre, les incroyants dans leur corps seront jetés dans le même étang. Mais c'est d'abord un tourment spirituel. Et cela implique clairement, que nous le reverrons, que c'est un tourment qui est conscient, un tourment sans fin. Et c'est une réalité qui est terrible. 21e mot sur la feuille. Au siècle des siècles, nous dit le texte, d'un côté, cela constitue l'avertissement le plus sérieux à ceux qui aujourd'hui se rebellent contre Dieu, ceux qui préfèrent le péché. Ceux qui rejettent la parole de Dieu, ceux qui pensent pouvoir connaître le succès, mais la parole de Dieu leur dit non, ce que vous pensez être le succès aujourd'hui n'est que temporaire. La punition, elle est éternelle. Dieu est patient. Dieu encore aujourd'hui est patient et sa parole est annoncée. L'annonce de l'évangile est offerte. Mais le jour vient où sa patience laissera sa place à la punition, au jugement. Et cette punition sera aussi éternelle que Dieu est éternel. Le péché est une offense contre l'être éternel de Dieu. Les conséquences du péché sont éternelles. Mais de l'autre côté, cette expression va apporter aux croyants la base d'une joie éternelle. Tout comme Satan et le péché n'étaient pas là en Genèse 1, ils ne sont pas là à la glorieuse conclusion de l'histoire de ce monde après le jugement final. Ils ne seront plus là lorsque le Seigneur Jésus-Christ règnera dans la gloire. Et nous qui méritons le jugement à cause de notre péché, le péché à nous qui croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, notre péché a été, nous avons été pardonnés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et au retour du Seigneur Jésus-Christ, ce péché sera totalement enlevé. Il n'y aura plus de diable pour nous tenter. Il n'y aura plus d'accusateur pour nous attaquer, pour nous rappeler tous nos manquements. Non, ce sera la félicité. Ce sera la joie parfaite. Que dire en conclusion ? Tout d'abord, pour les croyants, cette expression « au siècle des siècles » est en quelque sorte un antidote à la crainte que nous pouvons avoir de la persécution. Pourquoi devrions-nous souffrir dans cette vie à cause de notre foi ? Parce que nous savons comment l'histoire se termine. Parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Nous savons ce que l'éternité implique après la tombe. Nous savons que l'Apocalypse nous montre que le Seigneur Jésus-Christ est vainqueur. 22e mot sur la feuille. Tous ses ennemis seront détruits, seront anéantis. Seul le Seigneur Jésus-Christ est vainqueur. Et nos pertes ici-bas ne sont pas importantes si nous avons Christ. Notre héritage va plus que compenser toutes les pertes que nous pouvons connaître. Pour l'incroyant, c'est un avertissement que les conséquences du péché sont éternelles, 23e mot sur la feuille. Mais c'est aussi l'appel lancé à venir au Seigneur Jésus-Christ, puisque la parole nous dit que celui qui a le Seigneur Jésus-Christ, celui qui croit dans sa parole, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et pour le croyant, cela apporte la paix. La paix dans le cœur. La vision nous rappelle que les choses, oui, vont empirer dans ce monde. Qu'il y aura cette dernière bataille, mais que la fin est proche et que la victoire va éclater. Quand le camp est entouré, quand l'Église est entourée, le Seigneur Jésus vient défendre. Il s'approche de son peuple. Quand les Gog et les Magog de ce monde nous poussent au bord du désespoir, le Sauveur qui aime son peuple ne tarde pas à le délivrer. Et parce que nous connaissons la fin de l'histoire, parce que nous savons comment l'histoire de ce monde se termine, nous demandons à Dieu de nous accorder sa grâce pour que notre vie, notre être, notre adoration, tout ce qui est en nous, reflète la joie, 24e mot sur la feuille, reflète la joie de ceux qui habitent la ville bien-aimée de Dieu, de ceux qui habitent la ville que Dieu a choisie pour qu'elle lui appartienne. Que Dieu donc nous aide à saisir cela, qu'il nous accorde effectivement sa grâce pour que nous nous réjouissions toujours plus en Christ. Et que nous n'ayons pas peur de ce monde. Ce monde, aussi terrible soit-il, court à sa destruction. La victoire, elle est en Christ. Le vainqueur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lui seul. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.